Nous quittons à présent les marécages pour passer la lisière et nous fondre en pleine forêt. Vous pourriez bien vous retrouver museau contre museau avec quelques cervidés d'ici peu. Au nez, on reconnaît, paraît-il, leur lieu de repos au moment de l'année où ils sont fous d'amour. À l'oreille, aussi en pleine nuit, on entend leurs cris de désir qui se manifestent par de grands brames lancés dans l'air brumeux jusqu'à épuisement complet.
Grosso modo, hein, du 10 septembre jusqu'à mi-octobre.
Qu'est-ce qu'on verrait si on voyait plutôt?
Non, on voit pas rien, on voit de la brume.
Mais ça dépend vraiment des régions. Donc apparemment, plus on va vers l'ouest, donc vers la France, plus ça commence tôt. Et plus on va vers l'est, plus ça commence tard. Ça aurait probablement l'altitude aurait une influence, apparemment. Mais grosso modo, le brame est déclenché par la mise en chaleur des biches. Et la mise en chaleur des biches est déclenchée par la longueur de la lumière du jour. Mais disons qu'on ne peut pas parler de qualité de brame. Disons qu'eux, ils se reconnaissent entre eux. Ils reconnaissent en tout cas la puissance de l'animal au brame de cet animal-là. Et donc en général, le cri, le brame, suffit à opérer la sélection naturelle. Maintenant, si ce n'est pas suffisant, parfois, très rarement, il y a un rituel, si vous voulez, entre deux animaux de même puissance. Il y a ce qu'on appelle les marches parallèles. Ils vont bramer l'un vers l'autre et puis, à un moment donné, ils se rencontrent et ils vont marcher parallèlement en balançant leur bois de gauche à droite, en bramant. Ils vont marcher côte à côte, comme ça, sur 100, 120 mètres. Et en général, ça suffit encore à écarter un des deux. Si ça ne suffit pas, à ce moment-là, il y a un combat qui est très très court, très vif aussi, et très nerveux. Et donc le but, c'est pas de blesser ou de tuer, parce que une espèce animale qui installerait un combat rituel qui aurait pour but de tuer, ben, elle aurait disparu de la surface de la Terre depuis bien longtemps. Disons que c'est vraiment un cri qui part du bas-ventre. D'ailleurs, quand on voit un animal bramer, quand on voit un cerf bramer, il a vraiment son bas-ventre qui va de haut en bas comme une peau de tambour. Et donc, pour l'attitude qu'il a à ce moment-là, c'est d'abord de bien coucher ses bois sur son dos pour bien dégager son cou. Donc, il tend son cou. Et à ce moment-là, la gueule de l'animal prend vraiment la forme, une forme en haut comme ça, une forme de haut-parleur. Il n'y a pas de cri autre que, à l'époque du brame, le brame et puis ses aboiements. C'est un cri qui ressemble un peu à ça, c'est « voilà. Et donc ce sont des aboiements soit d'alerte, soit pour les biches aussi, qui aboient à ce moment-là, elles ne brament pas, elles aboient, pour alerter, prévenir le faon. Quand c'est le moment des jeunes qui a un danger, à ce moment-là, elle tape même des ongles sur le sol, un coup comme ça. Le faon se plaque au sol, et avec ses petites taches blanches-là, quand il est couché sur les feuilles, il est totalement invisible. C'est sa protection naturelle. Pendant le brame, ils ont une attitude aussi un peu particulière, c'est-à-dire qu'ils vont uriner, un mélange d'urine et de sperme d'ailleurs, et puis ils vont se rouler dedans. L'odeur joue un rôle évidemment très très important dans le monde animal, mais aussi chez le cerf. Quand le cerf sent qu'une biche est en chaleur, donc elle est prête à être fécondée, bah, il va tenter sa chance. S'il est trop tôt, ça ne marche pas. S'il est trop tard, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, c'est uniquement des échanges plutôt olfactifs que des échanges de sons. Ça sent le cerf, quoi. Ça sent aussi comme des feuilles de chêne qui pourrissent un peu. Comme une odeur très très forte, musquée, épicée. Ou comme du bois de chêne qui pourrit. Il a un peu cette odeur-là. C'est très difficile. C'est un mélange de forte odeur aussi de champignons, je dirais. Voilà. Les mythes par rapport aux cerfs sont vraiment très très anciens, puisque les Gaulois avaient déjà un dieu à tête de cerf. En fait, le mythe du cerf et le symbole du cerf, c'est le symbole de la Renaissance. Pourquoi ? Parce que chaque année, ce sont des animaux qui perdent leur bois. Alors il faut bien se rendre compte que les bois, qu'on en appelle bois parce qu'en fait ça ressemble à une branche, hein, c'est un os. C'est un os et ce sont les seuls animaux qui poussent un os à l'extérieur de leur squelette. Et comme ils le perdent chaque année, et que chaque année ça repousse, uniquement pour la sélection naturelle au moment de la reproduction, ben ça a créé évidemment fatalement une espèce d'émulation chez l'homme, parce qu'il s'est dit c'est quand même assez incroyable, cet animal qui peut repousser jusqu'à 2 mètres d'os, 1 mètre pour chaque bois, et jusqu'à 3,5 kg d'os par bois, donc 7 kg au total d'os, en 140 jours. Ça ne fait jamais que 4 mois et demi. À un tel point qu'il y a eu des études scientifiques qui ont cherché à savoir comment ça se passait. Parce que, évidemment, les applications médicales seraient évidentes. Quand on se promène en forêt et qu'on ramasse un bois, c'est vraiment un cadeau que le cerf nous fait. C'est d'abord sa carte d'identité, parce que c'est à ça qu'on le reconnaît. C'est aussi son bulletin de santé, parce que s'il a un bois atrophié ou qui repousse moins bien d'une année à l'autre, ça veut dire peut-être qu'il est blessé, qu'il est malade. Donc ça nous permet, nous, de bien les connaître et bien les suivre. Mais c'est aussi un coup d'adrénaline. Quand vous voyez à 50-60 mètres, quand on a un peu l'habitude, les pointes qui sortent dans les feuilles, je ne sais pas pourquoi, on a le cœur qui s'emballe. Moi, je m'appelle Christian Dave et en fait, je suis coordinateur d'une association qui s'occupe d'éducation à l'environnement. Alors, c'est très, très, très varié. Hein. Ça va des champignons à la cuisine sauvage, que sais-je encore, bon, à l'écoute du brame, bien sûr. Nous, on essaye vraiment de voir l'environnement, pas dans son détail, mais dans sa globalité, et fonctionnant comme un système où tout est lié, où tout se tient.
Thank you. un frisson de la terre qui traverse vos corps, un moment d'accélération de la nuit, avec l'acuité extrême de ces moments où l'on ne mesure plus la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Approchez-vous du phacomocher avec la prudence nécessaire et laissez-vous toucher par le chant des loups du Gévaudan, enregistré comme personne par Yannick Dobie.
Phacomocher d'Espigoule. Le phacomocher est un suidé provençal, notamment autour du village d'Espigoule, dans le Var. Son aspect est intermédiaire entre celui du sanglier et du babiroussa. Des excroissances frontales sont visibles sur le crâne exposé au muséum de Toulon, mais ses dimensions semblent être bien plus imposantes. Plus d'un mètre au garrot, pour un poids estimé à 300 kg. Le phacomocher est un animal solitaire, nocturne et très rare. Étymologie, légende et témoignage. Le nom de phacomocher est un néologisme, datant du 19e siècle et dû à Auguste Duméril, un paléontologue proche collaborateur de Georges Cuvier, qui l'identifia comme un suidé, ce qui est d'ailleurs contesté, et émit l'hypothèse que ce serait un antélodonte ayant développé un phénotype nanique. Auparavant, les légendes locales parlaient de 100 loups. Supposé tenir à la fois du sanglier et du loup, et dont les grognements modulés seraient, semble-t-il, plus prolongés en automne, époque du rut chez ces animaux. Ou bien encore de pornus ou porc cornu.
Tu sais ce que j'ai peur que ce soit ? J'ai peur que ce soit le phacomocher.
Sous ces dénominations,
le phacomocher !
L'animal a été signalé à plusieurs reprises.
La bête étrange qui hante ce quartier.
Le phacomocher, il est plus gros que le phacochère. Ah. Il fait peut-être 200 kilos de plus. Il est haut.
Des sources médiévales attestent qu'en janvier 1313, un sanglier énorme et féroce, dont la description correspond en tout point à celle du phacomocher, a été tué près du village de Varage par un chasseur nommé Alcide Pélissier, qui ramena en trophée les défenses de l'animal. L'hiver 1719, un phacomocher fut abattu entre Espigoule et Varage, dont le crâne reconstitué d'après le cynégéticien Jacques Bastide est exposé au muséum de Toulon. En 1944, alors que les combats faisaient rage dans son biotope, il fut aperçu fuyant le théâtre des opérations par des maquisards. Dans son poème épique Calendal, Frédéric Mistral le décrit comme un fidèle animal de garde de la fée Estérelle. Tandis que Marcel Pagnol signale que dans son enfance, le terrible sang-loup était réputé surgir inopinément des bois pour mordre le cul des enfants désobéissants. Toutefois, sa rareté a fait planer des doutes sur sa réalité, bien que de nouveaux signalements aient été faits en l'an 2000 dans les environs d'Espigoule. Depuis, on lui impute des massacres de troupeaux, source de conflits entre bergers, chasseurs et écologistes. Le phacomocher est également évoqué dans le film « Les quatre saisons d'Espigoule » de Christian Philibert.
On n'est pas bien le matin, là, de bonheur. Il y a des grimpes, pas une casse-couille.
Selon les auteurs provençaux Dussard et Philibert,
on est quand même mieux ici qu'à Müller.
Le phacomochère des Spigoules serait une population relique d'une espèce jadis beaucoup plus largement répandue autour du bassin méditerranéen.
Comme dans la bonne mer.
Ainsi, il aurait été signalé en Grèce et dans les Balkans durant l'Antiquité. Homère évoque un sanglier sauvage, solitaire, aux dents blanches. Tandis qu'Ovid, dans ses Pontiques, décrite aux bouches du Danube, où il avait été exilé par l'empereur Auguste, un sanglier si énorme que l'épire herbeuse n'a pas de taureau plus grand. Pourvu de soie aussi raide que des javelines, qui hérissent son cou. Une écume brûlante coule de ses larges épaules, ses dents égalent celles de l'animal indien dont on tire l'ivoire, la foudre sort de sa gueule et son souffle embrase le feuillage lorsqu'il pousse ses rauques grognements, audibles à des milles de là.
Thank you. Oh, my God. Thank you. dark alley as usual. But I found a strange woman was there before me. What are you doing here in my alley?
I always come here because it's a good place to hunt. There is always a man waiting.
C'est un reportage pour le 7e continent.
Bonjour, je suis Yves Méchulam, directeur du département de biochimie de l'École Polytechnique Montréal et je suis spécialisé en biochimie génétique tératogénèse. Dans le département, on avait un besoin constant de souris cobayes. Alors on s'est dit, un jour, pourquoi pas les écureuils en fait. Puis c'est vrai qu'il y en a partout et qu'il serait facile de les utiliser pour nos expérimentations. Mon collègue, Benjamin Werner du génie informatique et moi-même, nous avions lancé un vaste chantier de recherche à l'époque en bioinformatique sur l'implantation d'émetteurs Wi-Fi sur des souris, mais les résultats n'étaient pas concluants. En 2009, en mai je me souviens, nous avons alors réorienté nos expérimentations sur l'organisme de l'écureuil gris. Et au bout de quelques mois, on avait réussi à implanter des micro-bioconnecteurs de fréquence Wi-Fi suffisants pour alimenter quasi toute la ville de Montréal. C'est en fait juste des mini-antennes relais qui sont implémentées directement sous la peau de l'animal et qui fonctionnent grâce à sa chaleur corporelle. Au bout de 6 mois, plus de 600 écureuils étaient en quelque sorte greffés là, sur toute l'île. Tout le monde pouvait recevoir gratuitement le Wi-Fi chez soi de manière égalitaire et écologique. La queue des écureuils se révèle être une parfaite bioantenne Wi-Fi. On a d'ailleurs reçu le premier prix d'écologie informatique du Québec pour cette avancée technologique. Et c'est ensuite juste que la Société des arts technologiques nous a approchés pour cette idée de bio-art.
Luc Courchêne, moi je travaille à la Société des arts technologiques à Montréal. On s'intéresse ici aux nouvelles formes artistiques, à la fois biologiques et technologiques. Et c'est vrai que cette histoire d'écureuil Wi-Fi développée par Polytech Montréal, ça nous a tout de suite inspiré, ça nous a tout de suite donné envie. Ça faisait longtemps qu'on organisait des ateliers de hacking et on s'est dit pourquoi pas faisons une collaboration avec Polytechnique, du biohacking dans la lignée du lapin fluorescent d'Edouard Dokak, mais là avec des écureuils.
Le cordyceps est un genre de champignon entomopathogène qui infecte des insectes ou araignées dans la famille des cordycipitacées. Les stromas sont connectés directement sur l'hôte ou par l'intermédiaire d'un rhizomorphe. Les ascospores sont filiformes avec une tendance à se désarticuler. Ils parasitent aussi d'autres champignons. La présence de cordyceps peut trahir la présence de fausses truffes, du genre Elaphomis, Elaphomis granulatus en particulier. Certaines espèces de cordyceps affectent directement le comportement des insectes sur lesquels ils se développent. Présent dans les forêts subtropicales, le cordyceps unilateralis infecte le cerveau des fourmis charpentières
et contrôle leurs mouvements.
Les fourmis zombies infectées par les spores du cordyceps plantent leurs mandibules dans une feuille avant de mourir. Le cordyceps utilise donc le corps de son hôte afin d'atteindre précisément l'environnement propice à son développement. Ce dernier nécessite une température et une humidité optimales et pousse directement à partir du cadavre de la fourmi hôte. D'après les travaux de David Hugues de l'université Harvard, le cordyceps unilateralis aurait plus de 48 millions d'années. Certaines traces de cet organisme ont été retrouvées dans la fosse de Messel en Allemagne, autrefois recouverte de forêts subtropicales.
Au départ, nous autres à Polytechnique ont travaillé sur le développement de ce champignon hors de son milieu naturel, c'est-à-dire loin de la forêt subtropicale. Et les recherches étaient plutôt concluantes. Bien sûr, nous étions soutenus, vous le savez, par l'Initiative européenne pour l'écureuil, qui milite activement pour la protection de l'écureuil roux, une espèce menacée, nous le savons tous, par la prolifération de son cousin, l'écureuil gris.
À la Société des Arts Technologiques, on avait découvert ça, je crois, en regardant une série documentaire de la BBC, ces champignons magnifiques qui infectaient les insectes dans la forêt amazonienne et qui poussent directement sur leurs cadavres. Et on s'est rendu compte que des recherches étaient en cours sur ces champignons à l'École Polytechnique de Montréal.
Après, l'équipe de la SAT a proposé d'inoculer des doses de spores directement aux écureuils cobayes et d'observer ce qu'il pouvait se passer. C'était vraiment une expérience excitante pour notre équipe à Polytechnique. Les écureuils gris de Montréal sont des cobayes parfaitement adaptés de par leur génome vraiment proche des souris, mais avec une meilleure évolvabilité génétique qui laisse alors plus de chance à la mutation et à l'hybridation. Et les injections sur les souris n'avaient rien donné de concluant, mais là, avec les écureuils, nous avions un nouveau terrain d'expérimentation.
Les différentes compositions du cordyceps unilateralis ont beaucoup inspiré les vidéastes de la SAT. On avait un faible pour ses coloris extravagants et ses formes étranges. Ça nous rappelait pas mal les films de Cronenberg, le cordyceps unilateralis.
Au départ, on avait quoi, une dizaine d'écureuils. On a commencé par des injections de 0,5 microgrammes, puis on a augmenté la dose de 0,1 microgramme chaque jour sur toute la période de l'expérience, en notant absolument toutes nos observations.
Et là, bon, ça a vraiment été la surprise. On était 7 de la Société des Arts Technologiques à collaborer avec Polytechnique sur ces expériences inédites. Eux, ils étaient une vingtaine du département de biologie et il n'y avait plus qu'à inoculer ça et observer les transformations.
Pour la sécurité, il n'y avait rien à craindre. Champignons n'est toxique que pour les insectes et fourmis tropicales. Enfin, c'est ce que nous pensions au début. Ensuite, bah, c'est une question de dose.
Les doses, oui, là c'est très important. C'est à partir de là qu'on a commencé à voir les écureuils...
À partir de 4 jours, c'est ça la période d'incubation, nous l'avions trouvé. Le corps de l'écureuil gris stocke les spores qui augmentent la température du corps de l'animal à partir de 2,2 microgrammes de cordyceps unilateralis de synthèse directement dans le sang.
Et là, les écureuils qui ne comportaient aucun symptôme, hormis le stress de l'acclimatation au dôme de la SAT, les écureuils se sont peu à peu calmés, puis arrêtés de bouger.
Ils se sont figés comme des statues, mais encore chauds. Ils étaient toujours vivants, en fait. Le champignon n'est pas mortel. Bah, du moins, pas dans les premiers symptômes directs chez les écureuils.
Et c'est là que se sont mis à pousser ces choses. C'était vraiment incroyable. À une vitesse folle et de couleurs que nous n'avions encore jamais vues.
Et puis... Je me souviens, il y avait une odeur très particulière. On était tous sous le choc de ce qui était en train de se passer.
Une longue tige a commencé à jaillir du front des écureuils. Ils avaient tous les yeux mi-clos, une tige brune au départ, puis translucide en pointe, avec de nombreux filaments tout le long, comme des tentacules d'animaux des abysses, un petit peu fluorescentes.
Bah, c'était simplement une découverte fantastique. On ne savait pas encore ce que c'était, mais on sentait au fond de nous que ce champignon, c'était une pure merveille.
Tous ces champignons en train d'éclore avaient un anneau touffu, bleu turquoise et un chapeau sans lamelles au-dessous, mais de petites écailles réfléchissantes qui réverbéraient la lumière, des petites tentacules qui scintillaient.
Ensuite, les chapeaux de ces champignons qui sortaient de la tête des écureuils se sont tous ouverts en même temps, en une sorte de mouvement synchrone incroyable.
C'était époustouflant, on n'aurait jamais pu imaginer ça, ni même le concevoir artistiquement. Ce champignon était si parfait, si bluffant.
On n'avait rien vu d'aussi spectaculaire. Les couleurs vives du bulbe ressemblaient à du corail du jeune vif, comme le diploria labyrinthiformis, le corail avec ses stries, vous savez, ces plis-là, qui font penser à un cerveau humain ou animal.
Et puis, il y avait cette odeur sucrée, cette odeur enivrante.
On s'est aperçu peu après que le bulbe du champignon en question était directement relié avec le cerveau des écureuils encore vivants. Y puisant sa source principale d'énergie, et ce n'est qu'à l'apparition du chapeau que le cerveau de l'écureuil hôte, de l'écureuil donc infecté, cesse de fonctionner.
On n'aurait pas pu s'imaginer ce qu'il se passait à ce moment précis dans le corps de ces écureuils.
Je sais pas trop comment l'expliquer,
mais...
On a tout de suite eu envie de goûter à ce champignon.
Récolté dans la région de Montréal, le Sciurus ophiocordycipitacé, SODI, est aujourd'hui le champignon le plus exporté au monde. Il est autant prisé que le caviar ou la truffe périgourdine par les grands chefs internationaux. L'entreprise Sirius Suncor est la seule autorisée par le gouvernement du Québec et du Canada à pratiquer la culture et l'exportation du dit champignon. Le 7e continent est aujourd'hui le premier importateur de cette denrée aux vertus rajeunissantes.